de nous recevoir chez vous pour la rétrospective de l'actualité économique de cette semaine. Au sommaire, la situation macroéconomique de la RDC est plus ou moins stable, mais essentiellement orientée sur la Chine. C'est ce que révèle la Banque mondiale dans son rapport publié le jeudi dernier à Kinshasa. Ce rapport réalisé durant la période 2014 et la première moitié de 2015 a été remis aux autorités congolaises ce même jeudi. Nous allons parler également du budget 2016 qui est enfin connu. Il se chiffre à plus de 8 milliards de dollars américains. Il s'inscrit dans un contexte plutôt difficile, mais Matata Ponyo, premier ministre qu'il a déposé hier au Parlement, reste confiant. Et dans la deuxième partie des panoramas économiques, nous allons parler de l'ouverture le mardi dernier à Kinshasa de la conférence sur le commerce illicite de l'or en RDC. Objectif visé par cette conférence organisée par les ONG Ossissa et Sarwa est de connaître le cause de la vente illicite de l'or et des mesures pour contrer cette pratique. Nous en parlons avec Israël Moutala. Il est journaliste économiste. Il travaille pour le compte de Business et Finance. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Et bonjour à tous nos auditeurs.
Panorama économique, le dossier.
Les résumés de la semaine dans ce dossier. D'abord, la Banque mondiale qui vient de publier un rapport de suivi de la situation économique et financière pour la RDC. Ce rapport était remis aux autorités congolaises le jeudi dernier à Kinshasa. Ce rapport a été réalisé durant la période 2014 et la première moitié de 2015. Et dans ce rapport, trois faits majeurs sont soulignés. D'abord, la situation macroéconomique qui est plus ou moins stable. Ensuite, cette même situation est fortement dollarisée et elle est enfin concentrée géographiquement et en termes de produits.
Au-delà de l'analyse des développements économiques récents, il présente les principaux résultats des travaux analytiques de la Banque mondiale en RDC et les replace dans la perspective de l'économie de l'évolution de l'économie congolaise à long terme. En effet, cette catégorie de rapports vise à porter le débat vers un public plus large et à stimuler un dialogue sur les politiques publiques au niveau du pays, entre le pays et les partenaires internationaux et entre les partenaires internationaux. Cette édition montre que malgré les résultats positifs de la RDC en matière de stabilité macroéconomique et de croissance, cette stabilité reste vulnérable sur le moyen et le long terme et la résilience du pays nécessiterait une meilleure mobilisation des recettes du secteur des ressources naturelles, une réduction de la dollarisation, une réduction de la concentration de l'économie et une diversification des acteurs œuvrant dans le secteur minier. Les bonnes performances macroéconomiques, souvent considérées comme un acquis, sont dans les faits le résultat d'efforts considérables et soutenus en matière de recettes. Alors que la RDC est à la 16e position parmi 186 pays et territoires en termes de la part de la rente du secteur des ressources naturelles au PIB, elle se situe à la 104e position parmi 117 pays au niveau de la mobilisation des recettes. Par ailleurs, la forte dollarisation réduit la marge de manœuvre de la politique monétaire et accroît la pression sur les réserves en devise. Au-delà des actions au niveau des recettes et de la politique monétaire, le rapport souligne également les risques que pose la concentration géographique et par produit des exportations et de l'économie de la RDC et explore l'option de la diversification des acteurs dans le secteur minier qui consisterait à favoriser l'émergence de petites et moyennes entreprises minières à côté des multinationales. La diversification de l'économie est rendue toutefois difficile en raison des déficiences en infrastructures et en qualifications.
Autre actualité de la semaine, le budget de l'État pour l'exercice 2016 se chiffre à un peu plus de 8 milliards de dollars américains, chiffre révélé par le Premier ministre ce jeudi. C'était lorsqu'il est venu déposer ce projet de loi au Parlement pour examen. D'après Matata Ponyo, le budget 2016 s'inscrit dans un contexte plutôt difficile, celui de la baisse du cours des matières premières. Cependant, a-t-il rassuré, ce budget tient compte des priorités du gouvernement dont le social et les élections. Mimi Ngumba Mulongo.
Le contexte difficile auquel fait allusion le Premier ministre est celui de la baisse du cours de matières premières qui touche aussi la RDC.
La tonne métrique du cuivre est passée d'un peu plus de 7 000 dollars à environ de 5 000. Et notre économie bat notamment sur le pool du cours du cuivre.
d'où la baisse de recettes publiques. Mais malgré cela, les priorités restent d'après Matata Ponyo.
La révolution de la modernité sur laquelle est fondé le programme du chef de l'État doit continuer à s'appliquer pendant que le social aussi doit être financé. Le ministre de l'État au budget a donc prévu une ligne budgétaire significative pour les élections, quitte à ce que les recettes telles qu'elles seront mobilisées permettent effectivement de rencontrer ces projections budgétaires.
Dans son discours de la rentrée parlementaire, Robin Minako avait indiqué que l'examen de la reddition de comptes était un préalable à l'examen du budget. À ce sujet, Matata Ponyo s'est vu rassurant.
Aujourd'hui, le projet de loi sur la reddition des comptes va être examiné en réunion interministérielle avant d'être discuté dans le meilleur délai en conseil des ministres avant sa transmission à l'Assemblée nationale.
C'est donc dans les prochains jours que le texte sera présenté aux députés.
Nous allons d'abord commencer par le budget 2016 qui est enfin connu. Il était présenté, vous l'avez suivi tout à l'heure, au Parlement et il se chiffre à près de 9 milliards de dollars américains. Comment l'évaluez-vous?
Bon, je trouve qu'on ne peut pas faire la politique sans moyens, mais là, ce sont les moyens qui sont mobilisables dans les contextes actuels. Mais la première analyse, c'est qu'il s'agit d'abord d'un budget d'à peu près 8 milliards de dollars, si je ne m'abuse, et qui constitue un recul par rapport aux prévisions de l'année passée qui était un peu plus de 9 milliards. Et donc je pense que le budget actuel est amputé de plus ou moins 1 milliard de dollars, et cela se justifie par le fait qu'il y a la baisse de matières premières qui s'observe depuis le début de cette année, et qui se poursuit. Donc tout ça aussi est une interpellation. Nous avons une économie qui est fortement dépendante aux matières premières. Cette dépendance de notre économie aux matières premières fait que nous sommes une économie embryonnaire, nous sommes une économie qui est basée sur le secteur primaire. Or, on ne peut pas atteindre l'émergence, on ne peut pas atteindre le développement avec une économie aussi peu développée que la nôtre, aussi peu protégée que la nôtre. Voilà pourquoi souvent ça me fait sourire quand les gens parlent tantôt, par-ci ou par-là, de l'atteinte de l'émergence d'ici 2030. Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore créé les préalables pour arriver à l'émergence. Un budget à peu près de 8 milliards de dollars, et j'aimerais signaler, parce que je n'ai pas encore le document pour en faire un détail de ces 8 milliards de dollars, c'est que c'est un budget en trompe-l'œil. Parce que la véritable réalité, c'est que pour un pays comme nous mobilisons en termes de ressources propres, nous n'avons pas encore atteint 5 milliards de dollars en termes de mobilisation, en termes de ressources propres. Et donc, nous serons édifiés par la loi de réduction des finances. Vous verrez que pour l'année passée, pour l'année en cours, donc 2015, on avait un budget d'à peu près plus de 9 milliards de dollars et la cible était d'atteindre au moins 5 milliards de dollars de ressources propres. Et donc, cette cible-là, nous n'allons pas l'atteindre. Nous n'allons pas l'atteindre. Et atteindre 4 milliards ou 4 milliards 500 millions de dollars sera déjà un exploit.
Monsieur Moutala, vous pensez que ce budget pourra vraiment tenir compte du social, comme l'a dit le Premier ministre?
Non, c'est impossible. D'abord, il faut que nous définissions la notion du social.
Oui.
Si la notion du social, c'est payer des meilleurs salaires aux Congolais, il ne faut pas rêver. Vous prenez 1 200 000 personnes qui émargent au budget de l'État, vous multipliez par un salaire moyen pour vivre décemment. Si nous partons de ce que maintenant pour vivre décemment il faut à peu près 3 dollars par jour par être humain selon la dernière norme de la Banque mondiale, vous êtes à peu près à par individu ou par fonctionnaire, s'il a une famille moyenne de 5 enfants, vous faites les calculs. Nous serons au moins à peu près à 400 ou 500 dollars par personne. Et donc, c'est au-delà de nos moyens. Et donc, si vous parlez aussi, si vous faites allusion en termes d'accès aux soins de santé, en termes d'accès, là aussi, le compte n'y est pas. Donc, il n'y a aucun paquet de maladies qui sont sponsorisées par l'État. Les infrastructures sanitaires ne sont pas encore aux normes. Le personnel n'est pas motivé. Les hôpitaux ne disposent pas des médicaments qu'on peut donner gratuitement ou qui sont subventionnés par l'État. Donc il y a encore beaucoup de risques. La gratuité de l'école primaire notamment n'est pas effective. Bref, le social ne peut pas l'atteindre dans une situation de pauvreté comme la nôtre. Donc l'accent d'abord est mis sur la bonne gouvernance et la création de richesses C'est là qu'on doit mettre les curseurs. Donc, on ne peut distribuer la richesse qu'une fois qu'on l'a créée. Et pour créer la richesse, il y a encore beaucoup d'autres paramètres qui n'ont pas encore été accomplis. Donc, nous sommes encore dans une situation de pauvreté généralisée qui ne permettent pas à ce que le social des uns et des autres ou de la population ou des plus vulnérables d'entre nous soit pris en compte.
Et comment y remédier?
Pour y remédier, c'est très simple. Il faut accélérer l'amélioration du climat d'affaires. Il faut accélérer l'attraction des investissements. Il faut que le pays soit une sorte d'aimant qui puisse attirer des investissements, parce que pour faire le développement, il faut disposer d'énormément de capitaux. Et donc, il faut être en mesure de faire des emprunts pour financer les infrastructures, notamment routières, notamment énergétiques, qui sont des préalables, justement, à l'amplification de la croissance et à la réduction de la pauvreté. Mais parallèlement à ces mesures qui sont partielles, qui ne sont pas exhaustives, que je viens d'évoquer, il faudrait absolument aussi que l'État congolais puisse réduire sensiblement le train de vie de ces structures. Il ne faut pas multiplier les institutions comme on l'a fait à l'emporte-pièce. Il ne faut pas absolument aussi que nos dirigeants politiques et leurs structures puissent consommer beaucoup de crédits. Il faut jouer sur deux leviers. On amplifie les investissements et ça peut se faire notamment par des emprunts. Il faut que l'État se mette en capacité d'emprunter pour investir dans les secteurs productifs, dans les secteurs énergétiques, dans les secteurs routiers et dans les aménagements des voies de navigation,
fluviales,
maritimes, lacustres. Donc bref, il faut absolument qu'on permette qu'il y ait une certaine mobilité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. Il faut qu'on élargisse le marché intérieur pour que les entreprises puissent produire selon leurs capacités d'installation. Et voilà, il y a plusieurs recettes pour amplifier le mouvement de développement.
Oui, tout à l'heure, vous avez dit que les ressources de notre budget proviennent essentiellement du secteur minier. Cet avis est partagé par la Banque mondiale qui a publié son rapport hier sur l'économie, les aspects économiques et financiers de la RDC. Et dans ce rapport, il est clairement démontré que notre économie est fortement concentrée sur les plans géographiques. Au moins 40% de nos recettes sont envoyées en Chine. Et puis, cette économie est fortement dollarisée et pas du tout diversifiée.
Oui, madame, c'est ça les faiblesses.
Vous partagez ce point de vue de la Banque mondiale?
Oui, bien sûr, l'analyse de la Banque mondiale est exacte. Nous sommes fortement dépendants du secteur de ressources naturelles, du cuivre en particulier, et c'est dommage.
Qui est en baisse?
Donc, à dire que... Allô?
Le cuivre qui est en baisse à l'international?
Oui, ouais, ouais, le cuivre qui est en baisse, qui est une des raisons justement de ce que connaît un recul. Essentiellement, il y a à peu près trois grandes entreprises minières qui sont les plus gros contributeurs au budget de l'État. Il s'agit de Tenke Fungurume, il s'agit de KCC qui a fermé temporairement,
oui.
Il s'agit de Moumi. Donc je crois que ces trois entreprises à elles seules produisent à peu près 550 000 tonnes de cuivre l'an. C'est à peu près la moitié de toute la production de cuivre en RDC. Et donc ce sont eux aussi qui sont les plus gros contributeurs en termes de redevances, en termes d'impôts sur le bénéfice, en termes de cotisations sociales. Bref, ça fait vivre beaucoup l'économie congolaise. Quand il y a un fléchissement de prix du cuivre sur le marché international, on le ressent tout de suite. D'où, il est dit dans ce rapport, il faut absolument diversifier l'économie. Et la diversification de cette économie ne peut pas se faire sans énergie, ne peut pas se faire sans route, ne peut pas se faire sans ces infrastructures-là. On peut bousculer les choses et on peut faire des choses plus grandes. Mais le contexte congolais est ce qu'il est. Il est très compliqué, il est très complexe. Il n'y a pas suffisamment de volonté politique pour aller plus loin dans les réformes, pour aller plus vite dans les réformes. Et c'est ça le drame.
Oui, on va évoluer.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine, après l'arrivée de son deuxième avion samedi dernier, Congo Airways annonce pour très bientôt les vols inauguraux. Dans une interview accordée à Radio Capi de mercredi dernier, le directeur général a affirmé que sa compagnie va appliquer des prix acceptables conformément à un arrêté du ministère de l'économie. Au sujet de la desserte, Claude Kirongozi a souligné que dans un premier temps, seules les grandes villes seront concernées. Nous allons parler à présent de la réaction aux deux braquages subis par la banque Tembe, respectivement les dimanches derniers au Sud Kivu et le mardi à Lubumbashi. Les présidents de l'association congolaise de banques a rassuré que les banques continueront à assurer la paie des fonctionnaires dans le Congo profond. Toutefois, elles demandent aux autorités congolaises de renforcer la sécurité pour leur faciliter la tâche. Et une autre actualité, un prix de l'innovation industrielle va être décerné au mois de novembre prochain à 20 Congolais qui auront à présenter des projets innovants. Le ministre de l'Industrie, qui l'a annoncé le mercredi dernier au sorti d'une séance de travail avec le conseil de gestion du FPI, Fonds de promotion de l'industrie, justifie ce prix par les soucis du gouvernement congolais d'encourager les initiatives innovantes privées. Le FPI, qui doit financer ces prix, est en même temps chargé de sélectionner et soumettre dans plus ou moins 50 jours au jury le projet innovant à travers tout le pays. Une réaction par rapport à l'une ou l'autre info?
Le prix du billet d'avion, bon, je suis pas très... Je pense que nous sommes dans un pays où pour les prix, c'est peut-être le marché. Mais je pense que c'est aussi une bonne mesure que ces prix-là soient encadrés par le ministre pour que il n'y ait pas d'abus. Mais sur le fait que le prix de billet soit excessivement cher en RDC, c'était principalement dû à la multitude de taxes que l'État, justement, perçoit. Sur le prix, et donc si l'État élague une bonne partie des taxes, le prix sera abordable. Et donc, moi je pense, mais il ne faudrait pas que le prix soit inférieur justement au coût pour que, in fine, ils mettent en difficulté la nouvelle compagnie. Mm-hmm. Il faudra absolument que le prix s'ajuste par rapport au marché, qu'il y ait plusieurs compagnies d'aviation et que la concurrence joue pleinement pour que le prix se normalise.
Et par rapport aux deux autres sujets, vous avez une réaction?
Ça me désole un peu par rapport aux attaques
de la TMB,
de fourgons qui transportent de fonds des banques. Je pense que la financiarisation de l'économie est une excellente chose parce que la monnaie, c'est une sorte de sang, c'est que le sang est à l'organisme. Il faudra absolument que dans tous les coins, il y ait suffisamment de liquidités pour permettre des transactions, pour permettre la création de richesses. Et donc, si le gouvernement ne trouve pas les moyens pour sécuriser nos banques dans le convoyement de fonds, ça va poser un problème de climat d'affaires. Mais par rapport à ça, je pense que les solutions technologiques sont plus ou moins intéressantes parce que avec les solutions technologiques, on s'épargne de transporter des fonds dans un fourgon sur des longs kilomètres. Donc la monnaie électronique, voilà ce que le mobile banking peut jouer un rôle important. Que les fonds qu'on convoie, c'était pour aller payer les agents.
Oui, et les mérins.
Ouais, je pense que on peut, avec le mobile banking, avec le développement de la télécommunication, on peut épargner les banques de tout ceci. Et donc, je pense qu'il faut creuser plus encore davantage la piste du mobile banking ou même le e-banking pour faire en sorte qu'on limite au maximum ces attaques. Oui, les banques seront toujours de financer, mais par des jets d'écriture. Ça veut dire que, voilà, il y aura des monnaies virtuelles, il y aura des monnaies virtuelles, mais avoir des liquidités, je pense qu'on va s'acheminer de plus en plus vers la disparition de la monnaie papier. Et donc, tout dépend d'avoir des terminaux de paiement, des distributeurs automatiques de billets, par-ci, par-là. Et bref, je pense que plus on va développer la monnaie fiscale, plus on va développer toutes les infrastructures liées à ces technologies, la monnaie papier va disparaître.
Oui,
dans le transport en commun, dans votre hôtel, sans jamais avoir de liquidité sur soi.
Oui, on va passer à la deuxième partie de notre émission.
Panorama économique, matière première.
Parlons à présent de l'ouverture le mardi dernier à Kinshasa de la conférence sur le commerce illicite de l'or en RDC. Objectif visé par cette conférence organisée par les ONG Ossissa et Sarwa était de connaître les causes de la vente illicite de l'or et des mesures pour contrer cette pratique. Les participants ont également tablé sur l'affaire de 3 tonnes d'or sorties de la RDC frauduleusement et qui se trouvent actuellement en Suisse. Suivez ce reportage. Pendant 2 jours, les participants, dont les experts et ONG œuvrant dans le secteur des mines, vont débattre sur, entre autres, les initiatives et perspectives congolaises pour combattre la fraude dans le secteur de l'or en RDC, affaire de 3 tonnes d'or sorties frauduleusement de la RDC et raffinées en Suisse, lutte contre la fraude, les blanchiments des capitaux et la corruption. Le ministre des Mines, Martin Kabouéloulou.
Le gouvernement, au travers le ministère des Mines et de la Justice, est en train de voir comment on doit organiser pour que le dossier qui a été clôturé ensuite, nous puissions le rouvrir, même ici au pays. Il faudra que ces 3 tonnes d'or reviennent à la République. Soit...
Pour Alexis Mikanji, directeur général du Centre d'évaluation d'expertise et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC, il y a des mécanismes mis en place par la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGL, pour la traçabilité et la certification des minerais.
Il n'y a pas une mesure particulière pour l'or sur le plan régional, mais il y a ce qu'on appelle les 6 outils de la CIRGL en rapport avec les ressources naturelles qui permettent notamment d'encadrer la circulation de l'or. Parmi ces mesures, il y a notamment la certification. Il y a également la question des traçabilités. Il faut forcément une mise en œuvre effective de la coopération régionale pour que le contrôle soit effectif.
À l'issue de cette conférence, des recommandations seront formulées au gouvernement pour lui permettre de récupérer, si pas les 3 tonnes d'or se trouvant en Suisse, au moins l'équivalent en argent.
Alors, monsieur, chaque année, des tonnes et des tonnes d'or sortent du pays sans que le trésor public en bénéficie. À votre avis, qu'est-ce qui est à la base de cette situation?
Ce qui est à la base de cette situation, c'est l'absence de l'État. L'État n'a pas assez de moyens humains, de moyens matériels, de moyens financiers pour encadrer l'activité artisanale de l'or. C'est un phénomène qui passe totalement l'État. J'ai visité de vastes zones en province orientale, par exemple, et c'est sur des milliers et milliers de kilomètres vous trouvez des creuseurs artisanaux en train de s'activer à chercher de l'or avec les moyens de bord, d'autres avec des moyens semi-industriels. Mais l'État est totalement dépassé. Il a quelques services qui est dans certaines zones. Ces services ne sont pas du tout efficients. Et donc, voilà. Mais tout part du fait que même dans ces zones-là, il n'y a pas de traçabilité. Le certificat CIRGL pour la traçabilité des ressources minérales précieuses et autres n'est pas totalement efficace. Parce que au Rwanda, on peut acheter de l'or sans le certifier. En Ouganda, on peut acheter de l'or congolais sans le certifier. Au Kenya, on peut acheter de l'or congolais sans le certifier.
Comment combattre ces fléaux?
Pour combattre, il faut renforcer d'abord l'autorité de l'État, encadrer tous les créateurs artisanaux, les regrouper en coopératives, pour qu'ils, donc voilà, les regrouper en coopératives, travailler avec les pays de la sous-région, mais qui n'ont aucun intérêt à le faire, pour que chacun de nous publie les statistiques de sa production d'or, pour que chacun n'accepte pas d'acheter de l'or non tracé, non certifié. Et tout ça parce que pour sortir de l'or du pays, il faut un certificat qui démontre que vous l'avez pris d'un prix X et pour l'exporter, il faut que ça passe par un comptoir.
Oui.
Et donc, les nombres de comptoirs sont connus, les prix pas vraiment, mais quand quelqu'un qui prend un créseur vend à un négociant qui, à son tour, va le vendre à un comptoir, il doit dire il a fait ça dans quel prix pour qu'on dresse un certificat, parce qu'en faisant un dossier de certificat, l'État percevra quelques droits sur l'or à exporter. Et donc, il y a cette chaîne-là. Mais est-ce que le fait que les taxes aussi soient peut-être un peu élevées en RDC ne favorise-t-il pas aussi cette fraude? Il faudrait qu'il fasse aussi une étude comparative de la fiscalité. Pourquoi qu'il est plus intéressant d'aller vendre l'or or dans les pays voisins plutôt que de ici au Congo? Là, il faut essayer de réfléchir peut-être qu'à l'État créer une centrale d'achat d'or, je ne sais pas. Mais il faut trouver le mécanisme.
Parce que je crois que l'a fait. Monsieur Moutal, au cours de cette conférence, on a même parlé de l'affaire de 3 tonnes d'or qui étaient sorties de la RDC frauduleusement et qui se trouvent en ce moment même en Suisse. N'est-ce pas un manque à gagner pour le pays?
Si, c'est vraiment un gagné pour le pays. 3 tonnes d'or, c'est pas rien, c'est quand même assez considérable. Mais il faudrait encore là-dessus prouver que c'est sorti frauduleusement, de quel pays, il faudrait prendre des avocats. Et donc la procédure ne sera pas facile, elle sera très longue. Et donc moi je ne vois pas, il faut prendre des mesures plutôt structurelles pour décourager la fraude, et c'est avoir une comptabilité, une fiscalité hyper attractive par rapport à nos pays voisins. Et c'est, comme je l'ai dit tantôt, un meilleur encadrement des artisanaux, qui va être fait par le CESCAM, le service de la petite et de la moyenne mine. Mais là aussi, il faudrait que le CESCAM dispose des moyens humains, matériels et financiers pour faire son travail d'encadrement. Donc on ne peut pas demander au CESCAM de faire un travail efficient d'encadrement des artisanaux miniers si, au préalable, on ne lui donne pas les moyens pour ce travail. Et donc, même si on est dans un pays de corruption généralisée, de fraude massive, donc ce sont des problèmes structuraux auxquels il faudra donner aussi des réponses tout à fait structurel.
Oui, par rapport à l'affaire 3 tonnes d'or en Suisse, les ministres de Mines semblent plutôt optimistes. Ils pensent que le pays peut quand même récupérer, si pas l'or, mais au moins l'équivalent en argent. Vous êtes de cet avis?
Non, je ne suis pas aussi optimiste que le ministre de Mines. Je suis plutôt sceptique, parce que je sais que les procédures sont complexes et sont longues. Et moi, je ne partage pas son optimisme, mais bon, si l'État pouvait récupérer cet or ou son équivalent en numéraire, ça sera pour moi un sujet de satisfaction, mais je ne suis pas aussi optimiste que le ministre.
Voilà, monsieur Moussala, c'était un plaisir de vous recevoir chez nous. Nous vous disons au revoir et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Moi, je vous remercie, madame.
Et merci également à nos auditeurs pour leur attention soutenue. Vous pouvez réécouter ces magazines sur notre site www.radiookapi.net et bon week-end chez vous.